Bonjour à ceux que je n'ai pas pu voir ce matin, et rebonjour aux autres, que Dieu soit béni. Dieu nous aime. Est-ce que Dieu vous aime? Moi, il m'aime plus, hein. Est-ce que Dieu vous aime? Oh, il n'y a pas grand amen, hein. Mais en tout cas, je me permets de vous le dire, de sa part, il vous aime. Je me permets de vous dire également de sa part que rien, ni personne, ni aucune autorité ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et ça, c'est bon de le savoir. Dieu nous aime. Il ne m'aime pas parce que je suis parfait. Ça n'existe pas, un homme parfait, n'est-ce pas, mesdames? Une dame parfaite, ça n'existe pas non plus, une dame parfaite, hein? Non, mais il nous aime tel que nous sommes. Nous avons les uns et les autres des enfants, des petits-enfants. Nous les aimons, hein? Pas parce qu'ils sont parfaits, mais nous les aimons parce que nous les avons engendrés. Et Dieu nous aime d'un amour que je ne peux comprendre, mais qui est réel et dont je suis bénéficiaire jour après jour. Que Dieu soit béni. Je ne suis pas le seul, hein? C'est formidable. Comment Dieu peut aimer le monde en même temps? Vous en pensez? Quand nous avons eu notre première fille, ma femme m'a dit, si j'ai un deuxième enfant, je ne sais pas si je pourrais l'aimer comme la première. Et puis, par la grâce de Dieu, on a eu une deuxième. Et quand elle est née, j'ai regardé, j'ai surveillé. C'est pas bien de le dire, mais elle le sait. Mais elle a aimé la deuxième comme elle a aimé la première. Notre première n'est pas la nôtre. Nous l'avons prise à l'âge de 2 mois et demi. Elle a 52 ans et demi maintenant. On l'aime. Et après, on a eu des jumelles. Mais on les a aimées pareil. Elles sont différentes, mais on les aime. Eh bien, Dieu nous aime à tous. Que Dieu soit béni. J'arrive pas à le comprendre, mais je sais qu'il m'aime. Ça me suffit. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais lire avec vous dans le 37e chapitre du livre de la Genèse. Alors, le livre de la Genèse, c'est un peu avant l'Apocalypse. Premier livre de la Bible, hein. Alors, bien sûr, j'en profite pour resaluer M. Mamasquet. Que Dieu les bénisse. Je salue mes collègues dans le ministère. M. Mamasquet, que Dieu vous bénisse. Ça va être le club des retraités. Voilà, j'aimerais lire quelques versets. Verset 4 d'abord, pour que nous comprenions tout le contexte. Ses frères, c'est-à-dire les frères de Joseph, virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Au verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël, c'est-à-dire Jacob, dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Alors, il lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Au verset 18, ils le virent, ça c'est les frères, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons que c'est une bête féroce qui l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. On peut continuer. Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Puis au verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique, de cette tunique de plusieurs couleurs que Jacob avait fait et qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, des marchands madianites Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Au verset 31 et 32, voilà ce que nous lisons. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Amen. Nous arrêterons là la lecture. Alors vous avez compris de qui il s'agit et de quoi je veux parler. Il s'agit de Joseph, le 11e fils de Jacob, le dernier étant Benjamin. Ce 11e fils de Jacob est l'aîné de la deuxième femme que Jacob a eue. C'est celle qu'il aimait, c'est celle pour laquelle il avait envisagé de travailler, parce qu'il aimait. Mais lui, le trompeur, car Jacob, c'est ce que ça veut dire, lui, le trompeur, a été trompé par son beau-père, et au moment d'avoir la jeune fille qu'il aimait, pour laquelle il avait travaillé, eh bien, on lui a donné l'aîné. Alors, ça ne lui a pas trop plu, et le beau-père, en improvité, lui a dit, « Écoute, si tu la veux, la deuxième, tu travailles 7 ans de plus pour moi. » Alors, c'est de cette deuxième femme qu'est issu l'aîné, donc, que nous venons de voir, Joseph. Et, en vieillissant, ça peut parfois arriver, ce qui n'est pas bien, il faut le reconnaître, mais il avait une petite préférence, il le chouchoutait peut-être, etc. Et la Bible nous dit, ses frères étaient jaloux de lui. Ils ne pouvaient pas lui parler avec gentillesse. C'est dur à vivre ça. Parce qu'il ne s'agit pas que d'une journée. Il ne s'agit pas d'une sorte d'humeur qui arrive de temps en temps. Non. C'est toute son existence. Eh bien, il ne pouvait pas lui parler avec gentillesse. Et puis, les frères aînés sont allés faire paître les troupeaux. Et un jour, Jacob, le papa, demande à Joseph, « Va prendre des nouvelles de tes frères. » Porte-leur des choses et vois comment les choses se passent, le travail. Et quand ils l'ont vu arriver de loin, voilà le faiseur de songes. Il faut dire que non seulement son père avait une préférence pour lui, mais en plus, Dieu s'y était mis de la partie. Comment ça ? Eh bien, la Bible nous dit tout simplement que Dieu lui avait révélé des songes. Pendant ces songes, il ne comprenait pas. Lui, Joseph, se voyait élevé et voyait tous les membres de sa famille se prosterner devant lui. Alors ça, c'était pas pour calmer le jeu, mais je dirais pour attiser la jalousie, etc. Alors quand ils le voient arriver, voici le faiseur de songes. Alors là, ils vont régler les comptes. Il n'y a plus papa derrière pour protéger. Hein. Il n'y a plus papa pour intervenir. Et ils décident de le tuer. Il y en a un parmi ses frères qui, quand même, arrive à calmer un peu le jeu. Et la Bible nous dit, il le jette dans une citerne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une citerne ? Bien, c'est un coffre. Je dirais, un grand réservoir qui servait à recevoir les eaux de pluviales pour être utilisées pour la culture, voire pour boire, etc. C'est un coffre. Et on le jette là-dedans. Et j'aimerais peut-être faire une comparaison. Est-ce que notre cœur n'est pas un coffre dans lequel il y a des choses qui sont à l'intérieur et si elles y restent, c'est la mort assurée. Et dans le cœur, il y a des choses qui viennent et qui sont là pour semer la mort. Quand Christ n'a pas transformé une vie, n'a pas changé un cœur, quand Christ n'a pas purifié une existence, c'est la mort qui y règne. La Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Or, le péché se trouve dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que c'est dans notre cœur que les pensées jaillissent. C'est parce que c'est dans notre cœur que les actions sont motivées. Il était dans la citerne. Et dans le fond, il n'avait pas prévu de le vendre. Mais ce qu'il pensait, c'est que, plus ou moins à long terme, Joseph allait mourir. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais donner quelques noms à cette citerne. Vous savez, on donne des noms à tout, hein. J'aime bien regarder les noms des villas. Je me souviens, en Haute-Savoie, de certaines villas que j'avais vues, ou en Savoie, un nom, il y avait marqué Crève-Cœur. Sur le nom de la villa, ça prouvait qu'il y avait eu un drame. Peut-être qu'ils avaient terminé le travail, terminé d'achever la villa, et qu'au dernier moment, il y a eu des problèmes. Je me souviens, il y en avait une entre Aix-les-Bains ici. Il y avait marqué « Ouf !» Enfin, c'est terminé. Je les avais relevés. Une autre, c'était une portée de musique. Il y avait marqué « Do, mi, si, la, do, ré. » Do, mi, si, la, do, ré. J'aime noter ces choses-là, hein, parce que ça reflète une réalité dans le cœur. Mais j'aimerais donner un nom en fonction, je dirais, de l'œuvre de mort qui s'opère dans la citerne. Je dirais, la première chose, c'est la citerne de la jalousie. Ces frères jaloux. Et c'est une souffrance de vivre avec quelqu'un de jaloux. C'est une souffrance de vivre avec des gens qui sont jaloux, que ce soit au travail. Les gens sont jaloux parce que nous réussissons. Que ce soit dans la famille, parce que les autres ne nous comprennent pas, peu importe, mais vivre continuellement avec quelqu'un de jaloux, c'est terrible. Ils envoient des pics, et ça blesse, et ça meurtrit, et ça amène, contrairement à ce qu'on voudrait, des sentiments qui ne sont pas glorieux. C'est un petit peu comme des roses, mais elles ne s'épanouissent pas, mais il y a les épines, alors là, croyez-moi. Et parfois, les gens, ils cultivent les roses que pour les épines. Et ils vous égratignent. Ils étaient jaloux. D'ailleurs, il nous le dit, la parole nous le dit, ils ne pouvaient pas parler à Joseph avec bonté. Imaginez un homme qui ne parle pas à sa femme avec bonté. C'est invivable. Je me souviens, dans une église, il y a des années, on avait une sœur qui venait, petite dame, bien brune, là je me souviens d'où elle était, etc. Elle était très gentille, elle est venue écouter l'évangile, son cœur était touché, elle voulait être baptisée. Elle avait un mari qui était plus que difficile. Là où il travaillait dans une usine de métaux, tréfis métaux plus exactement, et il était connu pour être un ours. Vous savez ce que c'est qu'un ours? Il y a peut-être les ours qui nous font rire, mais il y en a d'autres, ils sont plutôt grincheux. Il cherchait des chicanes à tout le monde. Un jour, elle me dit, je vais me faire baptiser, mais il faudrait que vous voyiez mon mari. Je ne le connaissais pas. Je vais, il me reçoit, il était en bout de table, j'étais là, son épouse était en face. Il y avait une jeune fille et un jeune homme. Et je commence à parler, et puis tout d'un coup, il me regarde, alors il était là, il me dit, qu'est-ce que vous pensez de moi? Je ne l'avais jamais vu. C'est la première fois. Elle était fermée, un visage. Mais j'ai dit, écoutez, moi je ne vous connais pas, mais je vais vous dire ce qu'on dit les autres de vous. Vous êtes un ours grincheux. Je lui ai dit ça. Waouh, il m'a regardé. Ça venait de quelqu'un d'étranger. Il a mis sa tête dans les mains. Il a commencé à pleurer. Il a demandé pardon à Dieu. Et je les ai baptisés tous les deux. Et les enfants se sont convertis, voyant le changement dans cet homme. Mais elle a mené... Je vous dis, pour sa vie, c'est plus glorieux, puis c'est du passé. Elle a mené une existence, la pauvre, pas facile. Ah, la jalousie, c'est terrible. Le moindre geste, la moindre parole, le moindre regard, la moindre attention de quelqu'un, tout est sujet à une colère, à une dispute, à cause de la jalousie. Et peut-être tu es là, en train de mourir, tu dis, un jour, je ne pourrai plus le supporter, je serai obligé de partir. Tu es dans la citerne de la jalousie, comme Joseph, et tu souffres. Je dirais, la citerne également de la méchanceté. Il jette Joseph dans cette citerne. Bien sûr, lui, il ne comprend pas. Il arrive pour saluer ses frères, il les aime, il le dépouille, il le prenne et il le jette dans la citerne. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être a-t-il posé des questions. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Pourquoi vous me faites cela? Et la Bible nous dit, il reste indifférent au cri de Joseph. Et peut-être qu'il y a des souffrances dans un autre cœur, des souffrances que vous avez vécues, subies, des souffrances qui remontent peut-être à une enfance difficile, et vous êtes là, vous ne pouvez même pas le partager, parce que les gens ne vous comprennent pas, parce que les gens vous donneraient tort, et vous vous dites, mais qui peut me comprendre? Et vous restez avec votre souffrance, la méchanceté des gens. Il n'y a pas une oreille attentive pour vous entendre. Combien de personnes, surtout dans le ministère, nous avons vu des gens qui n'ont jamais pu s'ouvrir. Alors ils sont comme renfermés sur eux-mêmes. Quand vous les croisez, ils ont une mine, un air tellement triste, malheureux. Il n'y a pas de discussion. Ils ne vivent pas, ils vivotent ces gens-là. Ils sont malheureux parce que les gens sont méchants. Et plus on s'enferme sur soi, plus la méchanceté des autres est manifeste. Est-ce que c'est pour rester comme ça? Je passe très rapidement sur ces détails. Mon père a été récupéré sur un trottoir en Bretagne. Ma mère a été abandonnée dans un couvent. L'un était en Bretagne, l'autre était dans la région du Tarn-et-Garonne. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés à Paris. C'est là qu'avec ma jeune sœur, nous sommes nés. Et tous les deux étaient alcooliques. Donc nous avons vécu dans un tel foyer pendant un certain temps. À l'âge de 7 ans et demi, ma mère est morte suite à l'alcool. Mon père a été tuberculeux. Il est allé 2 ans, en Haute-Savoie d'ailleurs, dans un sanatorium. Et puis il n'a plus vécu avec nous. Et quand j'ai entendu l'évangile, j'avais 9 ans et demi. Je me souviens du message. Moïse était beau aux yeux de Dieu, était enfant. Et ce message, je me souviens par qui il a été donné, ça m'a touché. Et à la fin de cette réunion, j'avais 9 ans et demi, j'ai fait cette prière. Seigneur, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, mais tu seras mon père. Et dès lors, il a pris ma vie à sa charge. Et des années plus tard, bien des années plus tard, on m'a fait passer un test de psychologie. Ah, est-ce que je suis normal? Si vous en pensez. Au travers de dessins. Oh, moi, je ne suis pas bon dessin. Hein. Ne me demandez pas de faire votre portrait, parce que ça ne vous arrangerait pas du tout. Mais j'ai fait les dessins. Et la personne m'a dit, mais vous avez dû avoir une enfance vraiment heureuse. Alors j'ai laissé parler, j'aime bien écouter. Au bout d'un moment, elle m'a dit, c'est bien ce que ça veut dire. Alors j'ai dit, non, pas du tout. Je lui ai raconté l'enfance que j'avais eue, un peu plus en détail que je viens de le dire. Elle m'a dit, c'est pas possible. Ici. J'ai dit, mais à 9 ans et demi, j'ai entendu l'évangile. Et ça a changé mon cœur. Et vis-à-vis de tout ce que j'ai subi, je ne sais pas ce que c'est, excusez-moi de dire ça, mais je ne sais pas ce que c'est d'être un enfant, d'être pris, d'être embrassé. Jamais connu cela. Parce que c'était comme cela. Est-ce que je vais reproduire cela? Oui, si je ne connais pas le Seigneur, je risque de le reproduire. C'est souvent même. Mais au contraire, moi, alors là, je suis très bisou avec mes filles et avec ma femme. J'aime leur faire des bises. N'est-ce pas, Alain? C'est formidable d'avoir des enfants et des petits-enfants. Que Dieu soit béni. Non, ça a été changé. La méchanceté. J'ai entendu de toutes sortes dans le ministère. J'ai entendu quelqu'un me dire, si j'avais un fusil, je vous tuerais tous. Je me suis trouvé devant quelqu'un qui avait le pistolet, là, comme ça, qui me surveillait. J'en ai vu, mais ça ne me dérange pas. Pas du tout. Ça ne m'empêche pas de les aimer. La méchanceté. Ah, il y en a qui y sont dedans. Et ils souffrent. On souffre de la méchanceté des autres. Et qu'est-ce que ça fait? Mais la Bible nous dit, le fer aiguise le fer. Et la méchanceté des autres, elle risque de reproduire en toi une même méchanceté. Une troisième nom de citerne, la citerne du rejet. Rejeté par ses frères, rejeté par sa famille. Je sais ce que c'est, parce que j'ai été rejeté. Je sais de quoi je parle. J'ai été élevé dans une famille d'accueil qui était apparentée de très loin. Mais parce que j'ai donné ma vie à Christ, parce que je suis pasteur, c'était terminé. Rejeté. Et quand on est rejeté, on se trouve frustré. On n'a plus confiance en qui que ce soit. On a un esprit de suspicion qui est là. Et tu es peut-être rejeté. Tu te replies sur toi-même. Tu n'as confiance en personne. Tu ne veux plus d'amis. Tu ne veux plus qui que ce soit. Et tu souffres là. Comme Joseph, au fond de cette citerne, rejeté par ses frères. Je pense, plus tard dans l'Évangile, à cet homme qui est à la piscine de Bethesda. Il est infirme. Ça fait 38 ans qu'il est là. 38 ans qu'il espère qu'un jour, il y aura quelqu'un qui lui donnera un coup de main lorsque l'eau sera agitée et il pourra être plongé dans l'eau de la piscine et il sera guéri. Peut-être il en a vu plusieurs qui ont été guéris avant lui. Et lui ont dit, t'inquiète pas, on s'occupera de toi. En attendant, ça fait 38 ans qu'il reste. 38 ans qu'il espère. Et quand Jésus s'approche de cet homme, il lui pose la question, veux-tu être guéri ? Vous avez vu sa réponse ? Je n'ai personne. Et tu te sens rejeté. Tu n'as personne. Personne pour t'aider. Personne pour te comprendre. Personne pour te diriger, te conduire. Comme Joseph. Ça peut être la citerne de la peur. Il est là. On vient de le jeter dans la citerne. Et vous savez de quoi parlent ses frères en haut ? De le tuer. Imaginez-vous qu'on vienne vous avertir demain. On va venir chez vous et on va vous tuer. J'ai un frère, je ne dirai pas dans quelle ville, mais que je connais bien, que j'aime beaucoup. Et il a reçu des lettres anonymes dans sa boîte aux lettres. Les gens lui ont dit, on va vous voler et on va vous tuer. Alors il m'a téléphoné parce qu'on se connaît bien. On a prié. Et puis, ils ne sont pas venus. Que Dieu soit béni. Mais vous imaginez la peur que ça peut engendrer. Et là, il apprend qu'ils vont vous tuer. Déjà, quand on apprend une mauvaise nouvelle, eh bien, vous risquez de mourir. Comme je donnais le témoignage, je crois que c'était vendredi dans la soirée, ou samedi hier peut-être, c'était de ce fameux Rémi, à qui le professeur va lui dire, vous avez 48 heures de vie. Imaginez ce que ça déclenche tout d'un coup. Mais quand Dieu est là, les choses sont changées. La peur. Et combien de gens vivent dans la peur aujourd'hui ? Peur de ce qui nous entoure, peur de l'avenir, peur de la maladie, de la souffrance, parce que dans la famille, il y a telle maladie qui se reproduit, inguérissable. La peur qui est là. Mais nous ne sommes pas nés pour vivre dans la peur. La peur, elle nous fait du mal. La peur, elle empire la souffrance que nous avons. Il est là dans la peur. Il les écoute. Mais ce n'est pas possible. Je dirais également, un autre nom qu'on peut donner à cette citerne, dans laquelle il est là, plongé. Enfin, plongé. Jeté. La citerne de l'hypocrisie. Il entend ses frères qui manifestent, étudient un plan diabolique. Ils disent, sa tunique dont on l'a dévêtue. On va la tremper dans le sang. On l'enverra à notre père et on lui dira, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Certainement qu'un animal, bête fauve, féroce, a dû le dévorer, le déchiqueter. Il entend cela. Quelle hypocrisie. c'est eux qui vont se débarrasser de lui et ils vont faire croire au père que c'est un animal qui l'a tué. Peut-être vous souffrez d'hypocrisie. Sans juger le monde, parce que nous étions du monde, sans juger le monde, vous ne pensez pas que nous sommes dans un monde hypocrite? Ce n'est pas même la peine de chercher à détailler. Nous le savons, nous le vivons au quotidien. Nous l'entendons à la télévision, aux nouvelles. Nous le voyons dans les hommes qui sont élevés comme des stars ou autres, ou même des gens diplomatiques. Quand je dis diplomatique, que ce soit en haut des gouvernements ou autres, on voit qu'il y a de l'hypocrisie. On le découvre après. Alors, devant quelqu'un d'hypocrite, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et on en souffre. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais jusqu'où vont-ils? C'est le règne du mal. C'est le règne des ténèbres. La Bible nous dit que le monde gît sous la puissance du diable. Et on souffre de ces choses-là. Peut-être tu souffres. C'est aussi la citerne de la solitude. C'est que c'est un drame, la solitude. De plus en plus, des gens s'intéressent à la solitude des personnes d'un certain âge. On habite maintenant dans des immeubles. Il y en a partout, hein. Il n'y en a pas qu'ici. Mais les grands immeubles, les gens sont sur un même palier, mais ils ne se connaissent pas. Il est arrivé que plusieurs fois, des gens soient mortes toutes seules chez elles, et on les retrouve des jours, pour ne pas dire des semaines après. Ils sont seuls. La solitude, c'est terrible. Être seul. Et là, il est seul dans la citerne. Il part quand ils le font remonter de le vendre et il va partir tout seul. Même pas un regard, même pas un salut, un au revoir. Moi, je vois quand... Excusez-moi de parler de mes filles encore. Hein, mais quand je vois mes filles qui viennent avec leur mari, leurs enfants, eh bien, on a un chemin de terre et puis qui fait à peu près 150 mètres. Et puis après, ils tournent dans une petite route. Et le temps, jusqu'au moment où on ne se voit plus, mais on est là toujours en train de se faire des gestes. Enfin, c'est même plus. Hein. On s'envoie des petits bisous. Mais pourtant, on va être séparés combien? Pas longtemps. Tout à l'heure, j'avais une de mes filles au téléphone. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis le mois de janvier. Ça fait longtemps. Alors, il dit vivement que vous veniez. En principe, à la fin du mois, on doit y aller. Mais on s'aime. C'est logique. La solitude, être seul, savoir qu'on n'est pas aimé. On n'a personne. Il va partir enchaîné, entraîné vers l'inconnu. Ses frères ne le regardent même plus. Son père. C'est quelque chose de terrible. Et tu es peut-être dans cette citerne de solitude. Tu te retrouves seul. Tu souffres. Peut-être que personne ne te voit, mais tu pleures. Que de gens m'ont dit, quand on a la tête sur l'oreiller, on a des larmes. Ou alors, tu es seul. Et pour passer, tuer le temps, tu regardes la télévision, ou tu t'endors devant la télévision, qui au milieu de la nuit est encore allumé. C'est terrible. Seul, la solitude. Et puis, dernier point de cette citerne, dernier nom que je lui donnerai, la citerne de la souffrance physique. Tout ça, c'est des souffrances morales. La souffrance physique, vous avez remarqué, on l'a jetée. Jetée, ça veut dire qu'il s'est blessé. Je ne sais pas s'il a eu des entorses. Je ne sais pas s'il a eu autre chose. Mais en tout cas, il a été blessé. Et il y a peut-être des souffrances physiques que tu endures depuis longtemps. Des souffrances physiques qui sont là. Tu es peut-être presque né avec des souffrances physiques. Tu as peut-être une maladie incurable. Et tu as des douleurs. Et dans ta vie, tu te dis, mais tout est contre moi. Je suis au fond de la citerne. Mais... comment vais-je finir ma vie? Comment vais-je mourir? Tu n'as plus d'espoir. La vie semble fermée. La vie te semble... tu te demandes pourquoi tu vis. Je me souviens d'une dame que j'avais vue, elle avait 82 ans. C'était dans le Lot, près de Cahors. Et elle vivait à la campagne. Et on m'avait demandé d'aller la visiter. J'étais avec un chrétien. Et pendant que le chrétien parlait avec une personne de cette dame de 82 ans, elle était dans son lit. Elle savait qu'elle n'avait plus pour longtemps. Elle m'a dit, monsieur le pasteur, ça fait 82 ans que je vis. Ça fait 82 ans que je me demande pourquoi je vis. Quand on en arrive à cet âge-là et qu'on se pose la question pourquoi je vis, c'est quand même triste. Mais elle n'est pas la seule comme cela. On l'a vu souvent. Alors, la question est celle-ci. Tu es peut-être dans la fosse, dans la citerne. Tu t'y retrouves, tu dis ça, c'est moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Voilà ce que dira le psalmiste dans le psaume 40. Alors je vais vous lire ces quelques versets au chapitre 40 et au verset 1er. Le psalmiste dira, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc et a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Il était sans espoir. Mais il a tourné ses regards vers Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu l'a sorti de la fosse de destruction. Nous voyons parfois des gens qui se suppriment. J'ai eu mon lot de tristesse à voir des gens qui se sont supprimés. Des gens que nous avons aimés, que nous avons visités. Des gens qui sont quelquefois venus. C'est terrible. Je pense à cette femme qui était professeur, veuve, faisait de la dépression. Je passe sur tous les détails. Et je me souviens, nous partions en vacances avec Colette, nous nous sommes arrêtés chez elle, nous n'étions plus dans la même région. Je me suis arrêté quand j'ai frappé à la porte de sa maison. Elle m'a ouvert. Ah, c'est vous, monsieur Galifou? Dans ses paroles, dans sa manière de parler, dans sa manière de me regarder. J'ai compris que ça n'allait pas. Et nous l'avions aidée, cette dame. Je me souviens de son fils, Bernard. Elle a salué ma femme, mais je ne sais pas si même elle pouvait se rappeler. Nous l'avons quittée. Nous sommes rentrés. Le lendemain matin, elle avait un coup de fil de sa sœur qui nous disait, elle s'est pendue. Je comprends la souffrance. Mais quel est celui qui cherche à détruire votre vie? La Bible nous dit, c'est le diable. Il n'est venu que pour dérober, égorger, détruire. C'est lui qui cherche à faire du mal. C'est terrible. C'est pour ça que je vous dis, je sais ce que c'est que d'être devant des gens qui sont dans la souffrance. Il n'y a pas que moi, mes collègues dans le ministère, leurs épouses. Et vous-même, vous avez rencontré, vous en avez peut-être même pleuré, prié. C'est pour ça qu'il y a des réunions de prière. Que Dieu soit béni pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le psalmiste dira, qui n'est autre que David, il dira, mais il m'a sauvé de la fosse de destruction. Job, dans son livre, dira au chapitre 33, ceci. Alors Job, c'est juste avant les psaumes, hein. Et il dira au chapitre 33, ces quelques versets que j'aimerais laisser à votre cœur. Au verset 19, ça ne fait rien si la lecture est un peu plus longue. Hein. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend des goûts, le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait pas, sont mises à nu. Son âme s'approche de la force de destruction, bien entendu, fond de la citerne, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un ange d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Que Dieu soit béni. Vous pouvez lire la suite également, si vous voulez. Dieu dit, si je trouve un ange intercesseur, Pasteur Galifot, est-ce qu'il y aurait un ange intercesseur pour moi cet après-midi? Est-ce que vous pourriez me donner le nom d'un ange intercesseur? Bon, il y a quelques noms d'anges, hein. Il y a Gabriel, il y a Michael, enfin... Non. Je connais quelqu'un d'autre. Je connais quelqu'un d'autre qui intercède. Quelqu'un d'autre qui est venu jusqu'au fond de la fosse pour nous libérer. C'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, a quitté son royaume, sa gloire, son autorité, tout ce qu'il avait pour venir sur cette terre, nous révéler que nous étions importants aux yeux de Dieu et que ce n'était pas Dieu qui faisait le mal, qui envoyait le mal, mais que c'était l'adversaire de nos âmes qui avait pris autorité sur l'homme. Et il est venu pour nous montrer quelle était la puissance de Dieu, comment il pouvait nous sortir, nous lever de cette force de destruction, pour montrer également comment il pouvait redonner de la vigueur à ce qu'il n'en avait plus. Et quand je regarde les paralytiques qui étaient là, sans marcher depuis des dizaines d'années, et puis qui, par la grâce de Dieu, se mettent debout et sont capables de courir, quand on s'est cassé une jambe, il faut un petit peu de se réadapter. Mais avec le Seigneur, c'est tout d'un coup. Et je pourrais vous citer des témoignages semblables. Je me dis, c'est extraordinaire, au nom de Jésus. Pourquoi Jésus? Eh bien parce que Jésus a connu tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Il a connu le rejet, il a connu la jalousie. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. On l'a pris en haine. Il ne lui parlait qu'avec des questions pièges. Le Fils de Dieu, le glorieux, celui qui était rempli d'amour, qui n'a jamais fait le mal, qui n'a jamais voulu le mal. Voilà ce qu'on lui a fait. On l'a crucifié. On a essayé de se débarrasser de lui. Et c'est lui qui, par sa mort, triomphe de Satan. Triomphe des autorités, des dominations. Il triomphe de toutes les puissances infernales. L'enfer n'a pas pu le retenir. Que Dieu soit béni. Seul Jésus a triomphé. Seul Jésus a vaincu. Seul Jésus a remporté la victoire. Et la Bible nous dit, que fait-il maintenant? Il intercède en notre faveur. J'ai trouvé pas un ange, ni Michel, ni Michael, ni Gabriel, ni qui que ce soit. J'ai trouvé un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de... Jésus, Jésus, c'est le nom glorieux, extraordinaire, merveilleux. Oh, alléluia. Il a été vendu, Joseph. Et puis, il travaille pour le mieux parce que lui, il a toujours la crainte de Dieu, il se souvient des songes. Et il y a une phrase qui revient dans l'histoire de Joseph, vous la relirez. Il nous est dit, l'Éternel était avec lui. Une phrase qui revient, comme un leitmotiv, au point où même le geôlier le reconnaît, Potiphar le reconnaît, il vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce que faisait Joseph, il y avait la bénédiction. J'aimerais vous dire, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et Jésus-Christ a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Et Dieu est en nous par son esprit. Oh, tu passes peut-être par cette citerne et tu te demandes comment ça va se finir. Bien dans Genèse chapitre 50, et j'aimerais lire cette conclusion de ce qui est arrivé à Joseph. Je demanderai encore quelques minutes. Joseph, au chapitre 50 et au verset 20, il faut dire que le père, Jacob, est mort. En connaissant la vérité, puisque il y a eu une grande famine sur toute la terre, mais Joseph a été sorti de prison. Dieu s'est occupé de lui. Il est devenu le principal personnage de l'Égypte après Pharaon. Et avec sa sagesse qui venait de Dieu, il a donné un moyen à l'Égypte de ne pas connaître la famine. Et quand Jacob, le papa, a appris, lui qui était loin, qu'il y avait de l'abondance en Égypte, il envoie ses fils, les frères de Joseph. Je passe sur les détails. La deuxième fois, Joseph les avait reconnus. Qu'eux ne reconnaissent pas Joseph, c'est normal, c'était un jeune. Je me souviens, j'avais quitté ma sœur, j'avais environ 8 ans, ma sœur aînée, demi-sœur plus exactement, et je ne l'ai pas revue. Jusqu'à l'âge de 16 ans et demi, où j'ai pu me payer un voyage, parce que je travaillais depuis pratiquement un an, et la première paye, je l'ai prise pour me payer le voyage d'aller de Montauban à Paris. Et puis je suis arrivé, j'avais vu l'adresse, je n'avais jamais revu. Je sonne, c'est une sonnette comme ça qu'on tourne, je sonne, la porte s'ouvre, la personne me regarde. Non monsieur, j'ai besoin de rien, croyez que j'étais un représentant. Elle allait fermer la porte, hop, j'ai mis le pied comme ça, je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Alors elle me regarde, alors son regard a changé. Je dis, tu ne me reconnais pas? Elle me dit non, je suis ton frère. Ah, on ne s'est pas revu. Alors je comprends que eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. C'était un jeune homme. Mais lui, il les a reconnus. Moi, j'avais reconnu ma sœur. Et il se révèle à eux. La vérité allait éclater, là, pour le papa. Et eux, lui, commandait l'Égypte. Et eux. Mais regardez ce que dit chapitre 50 du livre de la Genèse, au verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. C'est pas formidable ça? Des fois on se pose des questions hein, quand on est dans la citerne. Mais si Dieu m'aimait, mais si Dieu existait, mais si Dieu était juste, mais si Dieu me comprenait réellement, mais Dieu répond aux uns et aux autres, mais pas à moi. Dieu est là pour changer le mal en bien. Que Dieu soit béni. Et j'aime la parole. Parce que la Bible nous dit, Satan est venu pour dérober, égorger et détruire, mais la Bible nous dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Pour changer le mal en bien. Et il ajoute, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La deuxième raison, Dieu a permis tout cela parce qu'il avait un plan, un but, c'est que la vie de Joseph serve de bénédiction à son père, ses frères et derrière tout cela, à tous ceux qui sont issus d'Israël. Et Dieu a un plan derrière tes souffrances. Il veut te dire, c'est vrai, mais maintenant, le mal va être changé en bien, et de plus, ce que tu as souffert, je vais m'en servir. Tu vas témoigner de moi, et tu verras des personnes comme toi, sans espérance, prêtes à se donner la mort, tu leur témoigneras, tu leur parleras, et tu les verras se tourner vers Dieu. Il y a à peine 5 ans, nous revenions du Brésil avec mon gendre, nous étions dans l'avion, et alors que les lumières étaient éteintes, le repas avait été pris, avec mon gendre, nous sommes allés prendre un café, et puis il y a une hôtesse qui est arrivée, elle me dit, vous venez d'où? Alors je dis, du Brésil. Elle dit, vous aimez? Je dis, oui, j'ai bien aimé. Elle dit, moi aussi. Elle dit, pourtant, j'en ai pas toujours des bons souvenirs. Elle m'explique. Son mari était venu lors d'un voyage, il avait été tué dans un accident de voiture au Brésil. Elle me dit, je me suis remarié. Mon deuxième mari est mort d'un cancer. Et quand on l'a regardé, une femme, excusez-moi de ce que je vais dire, mais qui avait quelque chose de beau. Et quand elle nous a dit cela, si Seigneur, il faut que tu lui parles à cette femme. Je ne sais pas comment, mais Seigneur, il s'est parlé, lui. Hein. C'est parler à tout le monde. Alors, nous avons un petit peu discuté. J'ai dit que Daniel était pasteur, j'ai dit que c'était son beau-père, etc. Et puis, nous avons pris place. Et le lendemain, nous sert le petit déjeuner. Alors, j'avais prié le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, elle vient d'un côté de l'allée, elle serre mon jambe. Et puis, elle vient vers moi, me serre, avec un sourire, bien sûr, parce qu'on avait eu discuté. Je la regarde, je fais, madame, vous êtes une perle. Vous n'avez pas ma femme, là. Je te vois venir. Je dis, vous êtes une perle. Elle me regarde, ouvre les grands yeux. Qu'est-ce que je voulais lui dire? Je vais vous expliquer. Vous savez comment est faite une perle dans une huître? Je dis, non. Vous connaissez l'histoire. Je lui racontais comment la souffrance, c'est ce qui déclenchait la naissance de la perle dans l'huître. Je voyais, vous avez souffert. Moralement, physiquement, vous avez bien des souffrances en vous, mais malgré tout, et une femme courageuse, vous avez de l'espoir, vous aimez les gens, etc. Et je lui ai parlé de Jésus. Ah, elle m'a dit ça, c'est la première fois que je l'entends. Je lui ai dit, est-ce que vous me permettez, pas tout le temps, mais de prier pour vous? Ah, elle m'a dit, oui, je m'appelle Christine. Bon, au moins, c'était Christine, la crise dans son nom, pour vous gagner crise dans son cœur. C'est formidable. Oui, la souffrance, elle nous amène, quand Dieu a transformé nos vies, à dire, Seigneur, comme tu m'as libéré, tu vas les libérer. Comme tu m'as sauvé, tu vas les sauver. Oh, le Seigneur est là. Il y a quelques années, nous étions avec l'équipe qui s'occupe des prostituées dans la rue, la nuit, à Toulouse. Passion, là. Et puis, une sœur et un frère descendent du véhicule près d'une dame, une blondinette. Elle était originaire de Bulgarie. Elle s'approche pour l'inviter à prendre une boisson. Il faisait chaud, une boisson fraîche, pour lui parler de Jésus. Et puis, après que déjà ils aient commencé, moi je sors, descends du véhicule, avec une Bible noire. Elle me regarde, elle ne la connaissait pas, les 3 semaines qu'elle était sur Toulouse. Elle me regarde, puis elle se met à pleurer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, Violetta, je m'en souviens. Et puis quand elle a retrouvé, je lui dis bien, elle se met à pleurer, une prostituée qui pleure, dans la rue. Elle me dit, pasteur, parce qu'elle connaissait un peu le français, pasteur, quand j'avais 8 ans, dans la banlieue de Sofia, il y avait un pasteur qui passait pour aider les prostituées et il faisait exactement ce que vous êtes en train de faire. Je les regardais, je les voyais. Maintenant, c'est moi qui suis sur le trottoir. Mais il y avait 2 nuits auparavant, à la fin de la nuit, quand elle est rentrée chez elle, enfin chez elle, façon de parler, elle a eu un songe. Elle qui cherchait une Bible en bulgare, elle n'en avait pas, savait pas où en trouver. Dieu lui a donné un songe. Elle verrait un petit homme avec une chemisette blanche, un pantalon noir qui arriverait avec une Bible. Et quand elle m'a vu, c'était l'été, j'étais en chemisette blanche avec un pantalon noir et j'avais une Bible qui était devant moi. C'est pour ça qu'elle s'est mise à pleurer. Violetta, Dieu te cherche. Faut que maintenant tu arrêtes, que tu reviennes vers Dieu et que tu ailles dire aux autres, on n'a plus revu. C'était fini. Elle est repartie en Bulgarie. Que Dieu soit béni. Tu as souffert, mais Dieu va se servir de cela. Non seulement il changera le mal en bien, c'est terminé pour le mal. Tu ne seras plus esclave, tu ne ramperas plus maintenant. Tu ne traîneras plus dans les égouts, excuse-moi l'expression. Dieu va te transformer, mais il va t'utiliser. Comme il l'a fait pour les autres, est-ce que tu crois que Dieu peut changer le mal en bien? J'ai un de nos gendres, nous avons un de nos gendres. Il travaillait dans l'électroménager, il travaillait bien, il était responsable même d'un magasin, etc. Tout allait bien. Et puis, son patron a voulu vendre plusieurs magasins, les confier à d'autres. Et lui, il a été écarté du magasin Ah, oh, il en a voulu. Surtout qu'il n'y avait pas longtemps qu'il avait fait une expérience avec Dieu, qu'il avait donné sa vie au Seigneur. Ça l'a attristé. Et je me souviens au téléphone, j'ai dit, écoute, toi tu aimes Dieu, tu viens de te donner au Seigneur, Dieu va s'occuper de tes affaires, ne lui en veux pas ton patron, n'en veux pas celui qui a pris les choses, qui voulait se débarrasser de toi, ne lui en veux pas. Aime-les, prie pour eux, mais Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Bon, c'est peut-être facile à dire, mais nous on a prié bien entendu pour notre gendre. Dans les semaines qui suivaient, il a trouvé un travail bien meilleur. Bien meilleur, bien plus rémunéré. Et quand je dis cela, c'est pas une petite affaire, hein. Je vous assure. Par contre, celui qui l'avait évincé s'est supprimé. Et le patron se retrouve avec beaucoup de têtes. Dis-toi, Dieu t'a mis à l'écart. Et là, il le réalise. Oh, combien de fois il me le dit ? Oui, Dieu change le mal en bien. Dieu sait ce qu'il fait pour ton avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux que ce soit vraiment Jésus ? Jésus qui change ta vie. Est-ce que tu veux vraiment dire à Jésus, je me confie en toi ? Comme toi, tu as été avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Je crois que le Fils bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ, est avec moi. Alors, il conduira tout. Ce que je ne comprends pas, j'enverrai la fin. Et la fin de la Bible, comme disait une enfant à l'école du dimanche, ça c'est bon pour les enfants, hein, elle disait, les histoires avec Jésus, elles se terminent toujours bien. Et ça c'est vrai, hein. Eh bien, ça se terminera bien. Est-ce que tu le désires ? Je ne sais pas dans quelle citerne tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu rumines. Excusez-moi de parler de ce mot-là. Rumines dans tes pensées, dans tes esprits, ce que tu ressasses, dans les sentiments de ton cœur. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu vas abandonner tout cela au Seigneur, lui dire, s'il te plaît, agis. Et tu serais étonné de voir combien Dieu est extraordinaire. À 7, on a un couple. Une brave dame, elle est originaire d'Amérique latine, comment ça s'appelle ? Du Guatemala. Elle est chrétienne, sa maman est chrétienne, je crois qu'elle a une sœur ou deux chrétiennes, mais ses frères et son père étaient opposés. Bien sûr, ils priaient. Et un jour, en allant à la pêche au gros requin, ils sont allés donc pour pêcher le requin avec des fûts remplis d'appâts. Et voilà que leur bateau a chaviré. Ils sont restés 4 jours et 4 nuits en plein océan. Sans qu'il y ait de nouvelles d'eux. Bien sûr, je me souviens, elle l'a dit au pasteur qui était son pasteur à l'époque. Et puis bien des églises ont prié pour que Dieu intervienne. Et là, pendant 4 jours, dans l'eau, ses frères et le papa, sachant qu'il y avait des appâts, les requins pouvaient être attirés. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ils ont été sauvés au bout de 4 jours. Et maintenant, ils sont chrétiens. Que Dieu soit béni. Je ne comprends pas toujours tout. Mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon son dessein. Est-ce que tu veux le croire ? La foi. Seigneur, peu importe ce que se passe dans ton cœur, ouvre ton cœur. Seigneur, fais-moi remonter de la force. Je veux vivre avec toi maintenant. C'est tout ce qui compte. Être avec Dieu. Être avec le Seigneur. Et toute chose, c'est lui qui les dirigera. Il les conduira comme il le voudra. Et ce sera quelque chose de merveilleux. Une expérience inoubliable. S'il y a bien quelque chose que j'ai jamais regretté dans ma vie, c'est d'avoir connu Jésus. J'ose pas demander à mes frères dans le ministère et à leurs épouses, t'as regretté de connaître Jésus? Oh non, c'est en toi, c'est en ton épouse. Je ne sais pas si c'est en René. Je le connais depuis longtemps, hein. Non, c'est en nous, vous qui appartenez au Seigneur. Vous regrettez d'avoir connu Jésus? Oh non, je me demande comment on a pu vivre sans connaître. C'est surtout cela. Eh bien, aujourd'hui, qui veut donner sa vie à Jésus ? Et qui veut que Dieu le lève de la fosse de destruction. Ne permettez pas à votre cœur de devenir un tombeau. Ne permettez pas à votre cœur de devenir une citerne qui sème la mort. Mais que votre cœur soit pour Jésus. Que vous ayez la vie et une vie en abondance. La Bible nous dit, une vie jaillira jusque dans la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur.